Je vous propose, s'il vous plaît, d'aller dans quelques lectures pour introduire notre sujet. Donc, notre thème, c'est l'enlèvement. Je voudrais vous parler ce matin concernant l'enlèvement, ce que nous pouvons en dire, enfin, du moins, le sujet tel que je l'ai préparé. D'abord, Jean chapitre 14 et verset 2, si vous voulez chercher les passages dans votre Bible. Ensuite, nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, et puis 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 13. Alors, j'ai imprimé ces textes sur ma feuille, ce qui fait que je vais les lire assez rapidement. Si vous voulez les noter pour les relire éventuellement à la maison, ceci parce que, évidemment, sinon on va prendre beaucoup de temps et vous terminez vers 2h, on m'a dit, non ? Il y a la prochaine réunion, c'est à 3h30 la réunion cet après-midi. Non, je vais essayer quand même de terminer assez rapidement, hein. D'accord. Alors nous avons ici Jean 14, c'est notre Seigneur lui-même, hein, qui n'est pas encore mort à ce moment. Au moment où il prononce ses paroles, il n'a pas encore donné sa vie sur la croix du calvaire, mais il prévient déjà ses disciples en leur disant, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Amen. « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Alors il y a Thomas qui lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. C'est exclusif. Nul ne vient au Père que par Jésus. Certains nous critiquent dans ce domaine, mais c'est ce qui est. Et c'est impossible que vous soyez sauvés autrement que par Jésus. Nous sommes des pécheurs, nous sommes perdus. Il n'y en a qu'un qui a payé pour nous, et c'est lui. Il a payé, il a livré sa vie en rançon pour nous. Il pouvait le faire, c'était le Fils de Dieu, et il nous a sauvés. Alors personne ne peut aller vers Dieu, vivre pour l'éternité avec lui, qu'en passant par Jésus. 1 Corinthiens 15, 51, voici, là c'est l'apôtre Paul qui écrit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. » Je ne sais pas si vous le saviez ça, qu'on ne va pas tous mourir. Parce qu'on dit tout, régulièrement, on dit « on meurt tous ». Eh bien écoutez, la Bible dit « nous ne mourrons pas tous ». Mais tous nous serons changés. Par contre, hein, ça, c'est nécessaire. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, c'est le grand passage justement qui traite d'une manière assez explicite de l'enlèvement. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Traduisez ceux qui sont morts, hein. Ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous, les vivants, vous voyez que tout le monde ne sera pas mort, il y a les morts, mais il y aura nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, c'est-à-dire avec ceux qui viennent de ressusciter, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Voilà, c'est pas évident si vous entendez ces paroles pour la première fois. D'autres, bien sûr, les connaissent presque par cœur. Je voudrais rappeler un peu ce que nous avons vu hier soir pour ceux qui étaient là. Vous vous souvenez que la bête était semblable à ceux qui étaient là, à un léopard. Un léopard. La bête elle-même, c'était un léopard. Mais elle avait les pieds d'un ours et elle avait la gueule d'un lion. Alors, je vous rappelle cela pour que, c'est un peu la conclusion d'hier soir, le léopard représente l'empire d'Alexandre le Grand. Ça va ? Les pieds d'un ours, c'est l'empire mède et perse, et la gueule du lion, c'est l'empire babylonien. Ceci pour vous dire que la région est bien délimitée dans Apocalypse chapitre 13, la bête qui avait 10 cornes et qui avait 7 têtes. C'est une drôle de bête, hein ? Enfin, le Seigneur a voulu nous les montrer sous cette image, si on peut dire, hein ? Bien, je reviens donc à notre sujet. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus donc a dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». On vit la vie de tous les jours comme ça, on pense que manger, boire, dormir, travailler, et puis ça va continuer indéfiniment. Eh bien non, parce que Dieu a prévu, il y a une date de péremption. C'est un petit peu comme les boîtes de conserve, hein, vous regardez les dates. Eh bien, il y a une date, et le Seigneur a prévu qu'un jour, il va tout arrêter. Et c'est ainsi que nous parlons ce matin de ce thème que nous appelons l'enlèvement. On parle d'enlèvement, des fois, vous savez, on a enlevé un gamin, il faut vite voir qui c'est qui a commis cela. Non, ici, il ne s'agit pas de la même chose. Il s'agit du Seigneur Jésus qui va venir et qui va enlever, prendre avec lui. C'est pour ça qu'il a dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, dans ces réflexions que j'ai pu glaner pour cette méditation de ce matin, il y a un mot que je voudrais mettre en évidence ce matin, c'est le mot « imminent ». Vous connaissez ce mot, si vous connaissez un peu le français, bien sûr. Pourtant, ça dépend de l'importance qu'on lui donne, bien sûr. Avez-vous remarqué qu'on ne parle pas tellement du retour de Jésus ? Excusez-moi de cela, mais je parle d'une manière générale, bien sûr, hein. J'ai l'impression que les chrétiens se sont installés, construit la maison, etc. Et maintenant, eh bien, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, et la vie va continuer comme ça. Eh bien non, ça ne va pas continuer comme ça. Il va se produire quelque chose d'extraordinaire. L'enlèvement, ce qu'on appelle l'enlèvement, c'est à la rencontre de Jésus dans les airs. Vous avez lu avec moi, dans les airs. L'enlèvement est un événement imminent. Alors je vais bien sûr tourner autour de ce mot pour que tout le monde le saisisse bien. Quand nous disons par exemple le retour de Jésus, il peut y avoir confusion parce que ça peut être, on a peut-être en vue le retour de Jésus pour l'Église, pour enlever l'Église, mais le retour de Jésus peut être compris aussi pour quand il va venir sur terre. Ce matin, je voudrais vous parler du Seigneur qui descendra du ciel. Et il nous a dit que les morts ressusciteront, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors il y a le retour de Jésus pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Ce n'est pas du tout la même chose puisque là, nous allons à la rencontre de Jésus dans les airs. Mais il y a aussi le retour de Jésus quand il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais là, ce retour n'est pas imminent. M'expliquerai un petit peu dans ce domaine, voyez-vous. Il est vrai, bien sûr, que souvent nous employons le mot « retour de Jésus », ça veut aussi bien dire pour l'enlèvement de l'Église, que le retour de Jésus quand il va venir établir son règne sur la terre. Alors, pour l'enlèvement de l'Église, c'est un événement imminent, tandis que l'autre, non. L'autre n'est pas un événement imminent, il est chronométré. Il y a un chronomètre qui a été établi sur Israël. Dieu a dit, n'est-ce pas, 70 semaines ont été, n'est-ce pas, établies pour Israël, pour le peuple d'Israël et la cité sainte. Vous lirez ça dans Daniel chapitre 9, n'est-ce pas? Alors ce matin, vous voyez qu'on ne peut pas rentrer trop dans les détails, mais je veux dire, là c'est chronométré, puisque Dieu dit, voilà, c'est tant de temps voilà, qui ont été établis, il reste une dernière semaine qui ne s'est jamais accomplie, qu'on appelle la semaine de Daniel, ou la 70e semaine de Daniel, et quand elle va commencer à s'accomplir, elle est chronométrée. Et cette semaine, ce sont des semaines d'années, bien sûr, c'est une semaine de 7 ans. Alors, pourquoi l'enlèvement de l'Église est un événement imminent, alors que sa venue sur terre n'est pas un événement imminent? Il y a bien sûr une certaine confusion entre les passages de la Bible parlant de la venue de Jésus pour enlever l'Église et les autres textes qui traitent de son retour sur terre. Alors certains mélangent tout, ils ne savent plus où ils en sont. Un événement est imminent et l'autre ne l'est pas. Je le répète pour que ça rentre bien. Tout est dans la signification du mot imminent. Ça veut dire quoi, imminent? Alors, vous savez, comme je ne suis pas très, très féru en français, je suis allé voir le dictionnaire, et selon le dictionnaire, ce mot veut dire qu'il est sur le point de se produire. Imminent, un événement imminent, c'est sur le point de se produire. Il signifie aussi, je cite toujours le dictionnaire, qu'il peut se produire à tout moment ou à n'importe quel moment. Je vous donne un exemple que vous connaissez d'ailleurs, que les journalistes citent bien souvent dans leurs allocutions. Un danger imminent, par exemple, l'épée de Damoclès. Vous avez entendu parler? L'épée, quand on parle de quelque chose qui est là et qui... On appelle ça un événement imminent, l'épée de Damoclès. C'était autrefois dans les histoires des Grecs, Denis, le tyran de Syracuse. Il vivait entouré de gardes. Il était tellement aimé qu'il préférait quand même s'entourer d'une grande protection. Hein. Et il avait un courtisan qui le flattait continuellement, et son nom c'était Damoclès. Damoclès venait toujours lui dire « Ah, sire, vous, tout le monde vous obéit, quand vous dites un mot, paf, tout le monde s'incline, attention, etc. On tremble devant vous, et ainsi de suite. » Voilà, il le courtisait. Alors, ce monsieur Denis, voulant montrer à son courtisan l'inquiétude qui l'étreignait continuellement, il a toujours la peur de regarder à droite à gauche s'il n'y avait pas un poignard qui brillait, eh bien, il a invité donc Damoclès à prendre sa place le temps d'une journée. « Ah, tu crois que je suis courtisé, tu crois que tout va bien pour moi? Eh bien, écoute, tu vas régner à ma place pendant toute une journée. » Alors l'autre, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de suite? Il a commandé un grand repas. Un grand repas, alors il y avait le beefsteak, il y avait le bordeaux, il y avait la poire, il y avait le fromage, etc. Et tout semblait aller bien jusqu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il a senti quelque chose et il a levé la tête. Et quand il a levé la tête, eh oui, son souverain avait mis au-dessus de sa tête une épée suspendue, paraît-il, ça dépend de celui qui raconte l'histoire, elle était tenue par un crâne de cheval. Voilà, ça tenait, on ne savait pas trop si ça allait tenir. Il y avait donc là un danger imminent. Vous avez compris donc le mot imminent. Alors, je reviens à mon idée, ceux qui croient que Christ peut venir à tout moment, croient que Christ vient enlever son Église avant la tribulation, puisqu'il peut venir à tout moment. C'est maintenant. C'est peut-être à la fin de la réunion, vous avez bien fait de venir. Hein? Vous allez dire, ah, il va m'enlever quand je serai à l'église. Mais vous n'en faites pas, même si vous êtes à la maison, si vous appartenez à Christ, il vous enlèvera. Hein? Parce que si c'est demain, après-demain, on ne sait pas à quel moment il va venir. On ne sait pas. Vous serez peut-être dans les champs en train de travailler, vous serez peut-être à la maison en train de faire la vaisselle, voyez-vous. Christ peut venir chercher son église à n'importe quel moment. Ça veut dire que nous n'attendons pas l'accomplissement d'aucun événement. Avant son retour, il y aura des événements qui vont se produire, on les a sous les yeux continuellement, si vous écoutez un peu les informations, mais je veux dire par là qu'aucun événement n'a à intervenir avant que l'enlèvement puisse se faire, sinon ce n'est pas imminent. à ce que vous attendez un événement et vous dites, ah ça y est, l'événement il est là, ça y est, Jésus arrive. À ce moment-là, ce n'est pas imminent. Vous comprenez, le mot imminent suppose un suspense, si on peut dire, hein, pour employer un mot un peu anglais. Là. La venue de Jésus pour enlever son Église peut se produire à tout moment. Si un événement doit se produire avant, alors ce n'est pas le retour de Jésus que nous attendons. Nous attendons cet événement. Vous avez saisi ? Voilà. Déjà, vous avez compris pas mal de choses. Ce n'est pas le retour de Jésus que nous attendons, mais ce serait cet événement. Alors, à ce moment-là, quand cet événement se sera produit, alors nous attendons ou nous attendrions l'apparition de Jésus. Mais à ce moment-là, sa venue ne serait pas imminente. Vous comprenez? Parce qu'il y aurait déjà une annonce, si on peut dire. Par exemple, si nous disons, il faut que le temple soit reconstruit avant, car vous savez que le temple doit être reconstruit. Vous savez, il y a plus de 40 ans que je prêche. Et je commençais déjà à prêcher la reconstruction du temple à l'époque où personne n'en parlait. Et où c'était même pas, on n'en entendait même pas parler chez les Juifs. Et aujourd'hui, nous avons, vous pouvez regarder sur Internet, hein, vous avez la reconstruction du temple, tout est préparé, tout est, etc., etc. Bien sûr, je me demande comment ça va se faire, parce qu'avec les mosquées qu'il y a sur l'esplanade du temple, et puis un milliard de musulmans qu'il y a derrière, vous voyez un peu la difficulté, hein. Bon, on a déjà trouvé la vache rousse quand même, hein, pour purifier tous les ustensiles du temple. Si vous dites, il faut qu'il y ait la reconstruction du temple, alors nous attendons la reconstruction du temple. Quand le temple sera reconstruit, alors Jésus va revenir. Est-ce que c'est ça? Absolument pas. Même si il est possible qu'on assiste à la reconstruction du temple. Je ne dis pas que le temple ne sera pas reconstruit quand nous... Non, mais je veux dire, ce n'est pas ça que j'attends. Personnellement, je n'attends pas cela, même si je le verrai de mes yeux. Comme par exemple, nous avons vu Israël revenir dans son pays. Non. La venue de Jésus pour régner sur terre. Vous voyez, là, à ce moment-là, c'est l'autre événement. Par contre, lui doit être précédé de nombreux événements. Parce que quand Jésus va revenir sur terre, vous lirez le livre de l'Apocalypse et vous avez vous avez cité là tous les événements qui vont se produire au moment où Jésus, au chapitre 19 de l'Apocalypse, va venir avec toute son armée poser ses pieds sur terre, arrêter l'Antichrist, etc. À ce moment-là, il y a des tas de choses. Là, il faudra absolument que le temple soit reconstruit. Vous aurez l'apparition de l'impie, vous aurez les 10 pays formés dans l'ancien territoire de l'Empire romain, vous avez l'alliance de 7 ans qui sera contractée avec Israël, vous aurez l'abomination établie dans le lieu saint, vous aurez ces colères de Dieu manifestées selon les livres. Vous voyez, donc, ce sera chronométré à ce moment-là. Tandis que la venue de Jésus pour enlever l'Église, ce n'est pas du tout cela. Je vais justement rentrer maintenant un petit peu plus dans les détails. Alors, pourquoi nous parlons de l'enlèvement? Est-ce que nous avons inventé ce mot? Est-ce qu'on a inventé ce mot? Parce qu'il y a des soi-disant chrétiens qui ne croient pas absolument à tout cela, absolument pas. Hein. Et ils se disent chrétiens, mais ils ne croient pas à un enlèvement. Ce mot, il est tiré de passages que nous avons cités tout à l'heure, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, en particulier le verset 17, où il est dit, nous serons tous ensemble enlevés. Les morts en Christ qui viennent de ressusciter, et nous les vivants, donc on ne sera pas tous morts, vous voyez, et nous les vivants, nous serons tous, je rentrerai plus dans le détail cet après-midi, hein, ce ne sera pas du tout la même chose qui sera prêchée cet après-midi, mais nous serons, est-il écrit, tous ensemble enlevés. On ne l'a pas inventé, c'est bien écrit enlevés. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, et Paul dit, nous serons enlevés. Ce mot grec, qui est traduit par enlever, c'est le mot grec arpazo. Arpazo signifie saisir, il signifie enlever de force, il signifie saisir à la hâte, il signifie s'emparer vivement de quelque chose, il signifie ravir. Il signifie aussi réclamer ardemment pour soi-même et il signifie une autre possibilité, arracher. Alors, second La Bible dans laquelle nous lisons, bien souvent, c'est la version second. Le second traduit ce mot « harpazo » par « s'emparer ». Vous retrouverez ce verbe « s'emparer » dans le Nouveau Testament. « S'emparer », il l'a traduit aussi par « enlever », il l'a traduit par « ravir » et il l'a traduit par « arracher ». Alors, je vous cite quelques textes pour vous montrer que ce mot « enlever », ce n'est pas nouveau, on ne l'a pas inventé, il n'est pas unique. Dans Jean 6, 15, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, s'est retiré, etc. Vous connaissez, après la multiplication des pains, on a dit, voilà quelqu'un, on lui donne une mie de pain et il nous nourrit pour toute la vie. Voilà, ils étaient heureux, ils ont voulu le faire roi pour ça. Mais Jésus, n'est-ce pas, n'a pas voulu qu'on vienne l'enlever. L'enlever, c'est marqué, c'est le mot, le verbe harpazo. Jean 10, 28, Jésus parle de ses brebis. Ah, ça c'est nous, ça, hein, les brebis. Je suis le bon berger, dira-t-il. Et en parlant de ses brebis, il dit, je leur donne la vie éternelle. Et puis je saute quelques mots. Et il est dit, et personne ne les ravira de ma main. Il nous tient dans sa main et personne ne peut nous ravir, nous arracher, nous enlever. C'est toujours le verbe harpazo que nous avons là. Vous avez aussi Acte 8, 39, lorsqu'il est parlé de Philippe, quand il a prêché l'évangile à l'eunuque éthiopien, il nous a dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Oui, il a été enlevé. Ben, je ne sais pas comment ça s'est passé. Télétransportation, on dirait aujourd'hui, avec des mots modernes. Il a été enlevé, harpazo, acte 23, 10. Là, il est parlé de Paul qui était en mauvaise posture. Il était emmené prisonnier. Et le tribun fit descendre les soldats pour l'enlever. Enlever Paul parce qu'il courait des risques, voyez-vous. 2 Corinthiens 12. Ah, il est beau ce passage. 2 Corinthiens 12, versets 2 et 4. C'est l'apôtre Paul qui dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, alors là, il dit « ravi ». C'est toujours le même verbe, mais second a traduit ce verbe ici par « ravi ». Vous voyez ? Il connaît Paul, moi je pense que c'est Paul, hein. Je pense qu'il est en train de parler de lui-même, voyez-vous, mais il n'a pas voulu trop se mettre en avant. Et il dit « cet homme a été ravi jusqu'au troisième ciel ». Enlevé, ravi, arraché, emporté, jusqu'au troisième ciel. Il a déjà fait cette expérience. Et je sais que cet homme, dit-il, fut enlevé dans le paradis. Il traduit par ravi, il traduit par enlevé dans le paradis. Il est allé, il a vu, et c'est là qu'il dira, il a entendu des paroles. C'est difficile à décrire. Ce que j'ai vu, dira l'apôtre Paul, c'est indescriptible. Voyez-vous. Et c'est là que vous êtes invité à aller. Ça vous va comme programme ? Alléluia. Je m'arrête d'un peu parce que c'est émouvant là. Hein? Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 12. Il est parlé de la femme, vous savez, qui était autour du soleil, la lune sous ses pieds, etc. 12 étoiles. Et il nous a dit qu'elle allait mettre au monde un enfant, traduisait plus littéralement un enfant mâle. Et il nous a dit que son enfant fut enlevé. Enlevé vers Dieu et vers son trône. Enlevé, toujours le verbe harpazo. Oui, ce mot, vous l'avez donc plusieurs fois dans le Nouveau Testament. L'enlèvement, donc, est-il un événement imminent ? Parce que c'est bien joli de le dire comme ça, de balancer des trucs, mais est-ce qu'il est vraiment imminent ? Par là, nous voulons dire que nous n'attendons aucun signe particulier avant l'enlèvement. Si l'Église attend l'accomplissement de certains signes, alors ce n'est pas Christ qu'elle attend, mais son attention sera fixée sur ces signes. Je sais qu'on en voit des signes, attention, j'ai pas les yeux fermés quand même. Hein. Vous avez des tas de prophéties et de signes qui sont là dans la Bible, qui annoncent pour Israël, comme devant s'accomplir avant la venue du Rédempteur, pour Israël je parle, hein. Ainsi, Israël, en voyant ces signes, peut se préparer à l'apparition du Messie. Parce que, vous savez, ils l'ont rejeté et ils ont été mis à l'écart pendant un temps. Mais Paul parle de la réintégration. Vous l'avez lu ça ? Dans Romains, Paul dit, que sera leur réintégration. C'est bien écrit. On a dit Israël n'existe plus pour Dieu, ça a été rejeté. C'est faux. L'apôtre Paul dit leur réintégration sera une résurrection d'entre les morts. Amen. Quand ils ont été mis à l'écart, on a pu être sauvés, car l'évangile a été annoncé au monde entier, aux païens. Alors Israël, en voyant ces signes, n'est-ce pas, pourra se préparer. Par exemple, Jésus dit lui-même, en parlant à Israël, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, mais quand les Juifs vont voir cette abomination dans le lieu saint, le temple reconstruit à Jérusalem, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Vous savez que quand ils verront ça, selon la semaine de Daniel, il restera 3 ans et demi. Donc vous voyez, ils peuvent prendre le calendrier, ils peuvent cocher, comme nous on faisait quand j'étais militaire et qu'on parlait du persan. Vous avez connu ça, les anciens, là, hein? 100, 99, 98, c'était pas imminent. On savait que tel jour, paf, on quittait la caserne. Eh bien, Israël pourra à ce moment-là calculer le nombre de jours qu'il leur reste. Vous lirez dans l'Apocalypse, souvent il est parlé de 3 ans et demi, il est parlé de 1260 jours, ça veut dire la même chose. Il est question aussi d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, ça veut dire 3 ans et demi, ou 42 mois. C'est toujours le même nombre de jours qui nous sont donnés sous différents chiffres, voyez-vous. Ceux qui seront en Judée, selon le Seigneur Jésus, possédant le lieu saint et le sabbat, puisqu'il est dit, priez pour que ça n'arrive pas un jour de sabbat, ce sont les Juifs en Israël. Selon le prophète Daniel, cette abomination doit se produire 3 ans et demi avant le retour de Jésus sur terre. Donc le retour de Jésus sera prévisible pour Israël. Ils n'auront qu'à compter 3 ans et demi, puisque c'est à la moitié. Nous est-il dit que l'Antéchrist va rompre son alliance et pénétrer donc dans la ville de Jérusalem. Voyez-vous, mes frères et sœurs, le fait que l'Église n'attend aucun signe, nous allons voir des textes, bien sûr, est la preuve qu'elle ne participe pas à la tribulation. Non. Cette tribulation, elle est prophétisée pour Israël. Un temps de détresse tel qu'il n'a jamais existé sur terre, Jésus lui-même l'a dit, et qui n'existera jamais, parce que ce sera le dernier et le plus important. Israël sera en pleine tribulation quand Christ reviendra. Ce sera le chaos, ce sera la détresse pour eux, une grande détresse. C'est pour ça que nous parlons de grande tribulation. Voyez-vous. Par contre, il n'en est pas question pour l'Église. Quand dans la Bible, il est parlé de la Russie, enfin, on pense que ce serait la Russie, ce pays du fin fond du Nord, qui va venir envahir Israël avec d'autres alliés, n'est-ce pas ? Eh bien, nous, on n'attend pas ça. On n'attend pas l'apparition de l'Antichrist non plus. Vous attendez l'Antichrist, vous ? Qui vous attendez ? Ah, vous voyez, commencez à... Vous voyez, c'est ça, mes frères et sœurs. Nous n'attendons pas la bataille d'Armageddon non plus. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Qu'est-ce que nous attendons ? Hein ? On va le voir. Nous attendons le Seigneur. Nous attendons le Seigneur qui a dit : quand je vous aurai préparé une place dans la maison de mon Père, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors les disciples de l'époque, qu'est-ce qu'ils attendaient ? Jésus vient de partir, n'est-ce pas ? Même si pour certains ça faisait déjà quelques années. 1 Thessaloniciens 1:10, l'apôtre Paul le dit. Nous nous sommes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre la tribulation. Non ! Et pour attendre des cieux son Fils. Voilà ce que nous attendons. Nous attendons des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il y a une colère à venir, mais Jésus nous délivre de la colère. Il y a toujours eu des colères, des manifestations de jugement, mais là c'est particulier, ce sera la grande détresse. Nous serons, dit la Bible, tous ensemble enlevés, nous les croyons bien sûr, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et là, la Bible dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le retour de Christ sur terre n'a pas pour but de nous emmener dans la maison du Père, mais c'est de combattre les nations qui seront venues pour détruire le peuple d'Israël, attaquant Jérusalem. Il va venir à ce moment-là pour juger les pécheurs et instaurer la paix et ce que la Bible appelle le 1000 ans de règne sur la terre avec ses disciples. C'est là qu'il jugera la bête et le faux prophète et qu'Israël tournera les regards vers celui qu'ils ont percé. Vous voyez que le thème n'est pas du tout le même. Nous, c'est direction le ciel, tandis que là, il va venir sur terre et il va arrêter le chaos qu'il y aura sur la terre. Nous n'attendons pas l'Antichrist, nous attendons Christ. C'est meilleur comme programme. La Bible parle-t-elle d'un enlèvement imminent ? Parce que, bon, le frère Ségura, il dit ça ce matin, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand Christ vient enlever son Église, y a-t-il des signes avant-coureurs ou pas ? J'en vois de temps en temps, par-ci, par-là, mais tout en les voyant, moi j'attends quoi ? Ou plutôt qui ? J'attends Jésus. S'il y a des signes, alors ce ne sera pas soudain, du moins si j'attends ces signes, n'est-ce pas, mes frères et sœurs. Pour que ces événements soient imminents, écoutez bien, il faut que le texte qui en parle annonce le retour de Christ pouvant avoir lieu à n'importe quel moment. On va avoir bien sûr plusieurs textes. Hein. Il faut que ce texte annonce le retour de Christ comme pouvant être proche, même si c'est 2000 ans après. Au fait, ces textes qui ont été écrits, ils datent de combien de temps ? Vite. Je suis chronométré, moi. C'est pas imminent, je sais à quelle heure il faut que j'arrête. Voyez-vous, on peut dire que ça fait 2000 ans que ça a été écrit, grosso modo, hein, bon, 2000 ans. Mais en réalité, ça a été écrit il y a 2000 ans. Pour nous, ça fait 2000 ans. Mais pour Dieu, ces paroles que vous lisez, il vient de les prononcer. Quand j'ai réalisé ça, il y a eu un déclic là-dedans, voyez-vous. Il vient de les prononcer, le Seigneur. Il vient de les dire. C'est pour ça qu'on les prend avec autant de fraîcheur, mes frères et sœurs. Donc, il faut que ces textes que nous allons lire annoncent le retour de Christ comme étant quelque chose qui donne aux croyants espérance, encouragement, et non pas la peur, n'est-ce pas, d'un jugement imminent. Non, sans indiquer qu'ils souffriront la tribulation. Parce que si ce texte vous dit cela, alors, ah oui, là, j'ouvrirai une autre parenthèse. Il faudrait que donc ce texte annonce le retour de Christ en procurant l'espoir, mais sans le rattacher au jugement de Dieu sur l'humanité. Ça, c'est après, voyez-vous. Il y a deux programmes différents. Il y a l'Église et il y a l'autre programme pour toute l'humanité. Dans ce cas, on a Jean chapitre 14, que j'ai cité en premier lieu. Verset premier, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la... Lisez bien, vous verrez que qu'est-ce que les croyants attendaient, hein? Qu'est-ce que Jésus annonce? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Excusez-moi de le répéter, mais j'espère que ça s'incruste bien, n'est-ce pas, dans notre cœur. Ce texte dit bien que nous sommes emmenés par Jésus dans la maison du Père. Ce n'est donc pas le règne sur terre qui est en vue ici. Il y a bien deux événements distincts. Quand Jésus règnera sur terre, les textes ne parlent pas des croyants allant vers le Père. Aucune tribulation n'est en vue dans ce texte. Il va revenir, il nous prend, alléluia, dans la maison du Père. Nous avons 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc on n'attend pas la colère, nous. Vous êtes d'accord? Il y en a qui ne sont pas d'accord? Je vous attends à la sortie. Voyez-vous, mes frères et sœurs, pardonnez-moi de vous parler un peu. Voyez-vous, nous n'attendons pas la colère, mais nous attendons Jésus qui délivre de la colère. J'ai voulu, bien sûr, pour sonder un peu les Écritures, voir ce verbe qui délivre. Ça veut dire quoi, hein? Eh bien, c'est le mot grec « ruomai », qui signifie « tirer à soi ». Il nous délivre, « tirer à soi ». Et ça veut dire, j'ai regardé le bailli, vous savez, le fameux dictionnaire grec hein, que les étudiants sont obligés d'acheter, à moins que l'éducation nationale vous le fasse cadeau, j'en sais rien, moi j'ai dû l'acheter. Hein. Délivrer, ça veut dire sauver. Le dictionnaire donc grec-français du Nouveau Testament, que vous pouvez acheter, hein, il ajoute arracher aussi. Donc le grec classique signifie tirer d'un danger. Et en troisième point, il mentionne, il est même précisé, tirer à l'écart, soustraire au regard, cacher, voiler. Et la version Tob, traduction œcuménique de la Bible, traduit nous arrache à la colère. C'est ça ce que ce verbe veut dire. Donc, en le précisant bien, on remarque qu'il y a derrière cette notion de nous arracher, un peu comme le verbe arpazo, sauf qu'ici, Paul n'a pas réemployé ce verbe, mais il a préféré le verbe ruomai. Pour citer encore d'autres textes qui parlent de la venue de Jésus pour les croyants, pour l'Église, nous avons Philippiens 3.20, notre cité à nous est dans les cieux. Dans les cieux. Vos regards se portent où? Vers le ciel. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous attendons ça, nous. Nous attendons du ciel le Seigneur. Il dit bien le Seigneur. Les apôtres, les chrétiens de l'époque attendaient le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4.15, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, ainsi dit à le donner, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec ceux qui viennent de ressusciter. Alléluia! À la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça n'a rien à voir avec le règne qu'il va établir par la suite sur la terre, mes frères et sœurs. Et nous serons toujours avec le Seigneur, dit l'apôtre Paul. 1 Timothée 6,14, il enjoint Timothée de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils attendaient le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tite 2.13, il exhorte à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la tribulation. Non. En attendant la bienheureuse espérance. Voilà ce que nous avons, nous, on a la bienheureuse espérance. Amen. Vous voyez, c'est assez autre chose pour le croyant que tu es, mon frère, ma soeur. La bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et Jacques, je vous fais grâce de tous les autres. Là. Alors, tous ces textes que nous venons de voir parlent de l'enlèvement de la venue de Jésus comme quelque chose pouvant arriver à n'importe quel moment. Et c'est ce que nous appelons imminent. Voyez-vous? Les apôtres eux-mêmes, si vous voulez revenir avec moi sur ces textes, les apôtres eux-mêmes sont inclus dans cette attente. Je vous relis quand ils disent « Jésus nous délivre de la colère à venir ». Qui c'est « nous » C'était l'apôtre Paul inclus, voyez-vous. Il l'attendait à son époque. Jésus nous délivre. Il attendait l'apôtre Paul. Ça va venir, ça y est. Voyez-vous. Puis ensuite nous avons lu « nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ ». Nous attendons. Il l'attendait. À leur époque, ils avaient les yeux rivés vers le ciel. Nous, les vivants, dit l'apôtre Paul, nous, ils croyaient qu'il allait être vivant, voyez-vous, quand Jésus allait revenir. Donc, ils l'attendaient à son époque. Nous, les vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous serons tous ensemble enlevés. Nous serons toujours. Il se met dans le lot, dans le groupe. Nous serons tous ensemble enlevés. J'en fais partie, dit l'apôtre Paul. Il espérait être vivant quand Jésus allait revenir. Enfin, moi aussi, hein. Vous voulez être mort quand Jésus va revenir? Vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous vivez... Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, le Seigneur, bien sûr. Mais souvent, je le dis, j'aimerais bien être vivant quand Jésus va revenir. Pourquoi mourir? Pas obligé, hein. T'es pas obligé de mourir, hein. Attends le Seigneur. La venue du Seigneur était imminente pour eux. Vous saisissez? C'est ce que dit Paul en déclarant « nous, 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 alléluia ». Nous croyons que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. J'insiste sur ça, n'est-ce pas? Il y a deux programmes distincts. Hein? Il y a celui d'Israël et il y a celui de l'Église. Quand Israël a rejeté son Messie, le chronomètre s'est arrêté provisoirement. Ils avaient 70 semaines chronométrées. 69 se sont accomplies. Il reste la 70e. Je ne sais pas, ça peut être un langage un peu obscur pour certains. Hein. La 70e, c'est-à-dire il reste 7 ans qui doivent s'accomplir pour Israël. Et un traité de paix sera signé avec Israël de 7 ans, voyez-vous. Alors, le programme de l'Église, lui, mes frères et sœurs, a commencé. Quand l'Église sera enlevée, le programme d'Israël reprendra. Vous avez saisi? Vous voyez, c'est deux dispensations différentes. Et nous retrouvons à ce moment-là la 70e semaine de Daniel. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, vous avez souvent les 42 mois, 3 ans et demi, vous avez 1260 jours, un temps d'éteindre. Vous avez compris? Parce que à un moment donné, dans l'Apocalypse, à un moment donné, ils viennent de se produire 3 ans et demi, et après, il reste les deuxièmes 3 ans et demi. Si l'Église, écoutez-moi bien, si l'Église doit passer par la tribulation, ce qui n'est pas le cas selon les prophéties, et c'est ce que, n'est-ce pas, j'annonce aussi, alors, nous pouvons attendre plein de signes. Si elle devait passer par la tribulation, si, je dis bien, alors, il y a plein d'événements qui devraient se produire, n'est-ce pas, pendant la tribulation, puisqu'on passerait, soi-disant, par la tribulation. Nous devrions les subir. Alors, il y aura l'Antichrist, il y aura le temple profané, il y aura l'alliance de Satan. Vous avez les 144 000, vous les verrez, les 144 000. Ce sera pendant la tribulation. Vous aurez les deux témoins, vous aurez la marque de la bête. Vous pourrez ni acheter ni vendre sans avoir... La Bible n'en parle pas, parce que quand vous lisez l'Apocalypse, vous verrez que l'Église n'y est pas. À partir du chapitre 4, même hein, à la fin du chapitre 3, vous avez l'Église. Mais après, il n'en est plus question. Une fois, le mot Église est mentionné à la fin, mais c'est pour dire au revoir et c'est Jésus qui signe l'Apocalypse, voyez-vous. Donc, contrairement aux premiers chrétiens, comme on vient de le voir, ils n'attendaient pas ça, eux. Pas du tout. Nous allons attendre des signes. Alors qu'eux, ils n'attendaient pas ces signes. Ils disaient, nous, on attend la bienheureuse espérance. On attend Jésus qui va nous enlever. Alléluia! Les textes que nous avons lus, donc, devraient parler de moments atroces que les chrétiens devraient subir, par lesquels on devrait passer. Au lieu de ça, ils parlent de bienheureuse espérance. La joie de rencontrer Jésus. Alors, il y a deux événements distincts. L'enlèvement au ciel et le retour de Jésus sur terre. Enoch a été enlevé. Vous avez entendu parler d'Enoch? Élie aussi, de même que le Seigneur Jésus, ont été enlevés. Tout cela, ils sont allés au ciel. L'enlèvement existe déjà dans la parole de Dieu. Et parlant de l'enlèvement, Paul dit, voici, je vous dis un mystère. Ah, ben c'est vrai qu'autrefois, il n'en était pas parlé. Alors, il dit, je vous révèle quelque chose. Voilà, c'est nouveau. L'apôtre Paul vient d'en recevoir la révélation et il nous en fait part. Il n'en est pas ainsi de la venue de Jésus sur terre qui a été longuement annoncée déjà dans les anciennes prophéties des anciens prophètes de l'Ancien Testament. Il y a longtemps que les Juifs attendent la venue de Messie sur terre. Nous, on attend la venue de Jésus pour nous enlever dans la gloire. Amen. L'enlèvement, c'est de la terre vers le ciel. Vous avez vu, le mouvement, c'est de la terre vers le ciel. Tandis que la deuxième venue de Jésus, c'est du ciel vers la terre. Il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. L'enlèvement, il vient pour les croyants. Tandis que la seconde venue sur terre, il vient avec les croyants. Vous avez pris votre ticket aller-retour ? Oui, parce que dis-moi, un ticket, allez. Maintenant, il faudra que tu reviennes avec Jésus. Parce que la Bible dit qu'on revient avec lui. Amen. L'enlèvement sera seulement pour les croyants, tandis que la seconde venue sur terre, c'est pour le monde entier. Ça touchera le monde entier. L'enlèvement est imminent pour l'Église, tandis que sa venue sur terre s'est annoncée avec de nombreux signes, mes frères et sœurs. Ce sera même chronométré. Enfin, je vous laisse quelques textes comme ça. Hein. L'enlèvement a lieu avant la colère, tandis que la seconde venue vient conclure la colère. Ce qui est complètement différent. L'enlèvement, seuls les croyants le voient. La seconde venue, tout œil le verra. On voit quand même qu'il y a des différences. Il faut donc obligatoirement un certain laps de temps entre les deux événements. Alors, où est-ce qu'on en est, nous, mes frères et sœurs, concernant l'horloge prophétique ? Parce que nous sommes en 2014. Quand j'étais tout jeune, je me disais, est-ce que tu arriveras en l'an 2000 ? C'est vrai, hein ? Ça ne vous a pas fait la même chose, hein ? Vous qui êtes nés avant, bien sûr. Et puis, 2000 est arrivé, et puis nous sommes en 2014. Alors, je voudrais préciser ceci. Jésus peut venir enlever l'Église à tout moment. C'est ce que les apôtres nous démontrent par leurs écrits. Mais, il y a quand même un mais, il faut bien. Mais avant l'enlèvement, des événements peuvent se produire. Et l'Église en être témoin. Pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que je verrai et ce que je ne verrai pas. Mais nous restons toujours dans l'événement imminent de l'enlèvement. Je vois ces événements, je vois ce qui se passe au Moyen-Orient, et je vois même les préparatifs pour la construction du temple. Oui, il y a même des images en 3D même. Hein. Enfin, bon, je ne rentre pas trop dans les détails, hein, les vêtements des sacrificateurs et tout. Ils sont déjà enseignés, on les enseigne comment il faut faire pour abattre l'agneau, etc. etc. Ouais. Moi, je le vois tout ça, je le lis. Mais qu'est-ce que j'attends ? Je dis, tiens, mais alors toutes les prophéties sont en train de se préparer. Les décors, n'est-ce pas, pour la dernière scène se produisant sur le théâtre de l'humanité, est en train de se préparer. Mais nous, on attend. Nous attendons du ciel le Seigneur qui a le pouvoir de nous transformer et de nous emmener dans la gloire. Nous n'attendons pas l'accomplissement d'un quelconque événement. On n'attend pas, nous. Ça va se produire peut-être, ce qui ne nous empêche pas de considérer, bien sûr, ce qui se passe dans le monde, et en particulier en Israël. Vous avez remarqué comment, en quelques années, Israël est devenu la cible, je dirais presque du monde entier. On voit que tout le monde n'est pas fini par, comme dit le prophète Zacharie, hein, par prendre Jérusalem comme une pierre pesante. Elle finit par... ça pèse, hein, ça devient trop lourd. Oui. Et ceux qui, bien sûr, essaieront de la soulever, eh bien, ça va aller mal pour eux. Vous avez en Israël les organisations qui s'occupent donc de tout préparer pour la reconstruction du temple. Un en particulier que vous pouvez trouver dans Internet qui s'intitule l'Institut du Temple. Ce n'est pas le seul, mais vous avez l'Institut du Temple. On a aussi la reconstruction de Babylone qui avait commencé avec Saddam Hussein. Bon, ça a mal tourné pour lui, en tout cas. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une armée de 200 millions d'hommes. À l'époque des apôtres, ça n'existait pas. Et pourtant, l'Apocalypse annonce une armée de 200 millions d'hommes. Or, j'ai lu quelque part, c'était en 1965, dans un journal qui a paru à l'époque, c'était le 21 mai, je m'en souviens parce que c'est ma date de naissance. Il faut bien que j'ai un point de repère, mnémotechnique. Déjà à l'époque, les Chinois annonçaient qu'ils pouvaient mettre sur pied une armée de 200 millions d'hommes. enfin d'hommes et de femmes, il disait quand même. Hein. Aujourd'hui, ils ont dépassé le milliard, vous le savez. Hein. 1 milliard 300 millions de Chinois. Waouh, ça fait du monde, ça. Hein. Ils peuvent facilement mettre sur pied une armée de 200 millions, sans compter les Indes aussi. Enfin, je dis les Indes ou l'Inde, comme vous préférez, qui peuvent aussi s'allier. Et eux, n'oubliez pas, ils sont en train de rejoindre les Chinois en population, 1 milliard d'habitants, et ils sont en train de vouloir même les dépasser. C'est vous dire que la Terre, bientôt, ça va être lourd. Hein. Elle va peser, mes bien-aimés, avec toutes ces naissances. Pardon, hein, voyez-vous. Et puis, nous sentons vraiment qu'il y a des préparatifs. Vous avez lu Ézéchiel 38-39, Gog et Magog, on en parle comme ça, habituellement on appelle ça Gog et Magog, ce fameux pays du Nord qui va s'allier avec l'Iran, avec des pays qui sont nommés dans la Bible. Et ce sont tous des pays qui sont contre Israël. Aujourd'hui encore, on voit bien que les prophéties sont en train de nous cerner de toutes parts. Alors tout cela, je le vois bien sûr, et j'en entends parler, et je les étudie, mais mes frères et sœurs, nous attendons le Seigneur Jésus. Voilà, gloire à Dieu. La majeure partie des pays qui sont contre Israël sont pour la disparition de ce pays. Il y en a même un qui n'existe plus aujourd'hui, de moins à la présidence, Ahmadinejad, vous vous souvenez, Ahmadinejad. Hein, il avait vraiment la vision apocalyptique sur les temps de la fin. Lui, il voulait carrément rayer Israël. Mais n'oubliez pas, je vous laisse ça dans le coin de l'oreille, leur intention, selon les prophéties islamiques, leur intention, s'ils veulent que le jugement dernier arrive, parce que c'est ça qu'ils attendent, il faut qu'Israël soit détruit. Ce n'est pas un scoop, c'est écrit depuis des siècles. Mais j'étudie donc les prophéties islamiques. Ils attendent la destruction d'Israël. Donc même quand vous n'en entendez pas parler, que vous entendez qu'ils essayent de prendre l'Irak, etc., etc., permettez-moi de vous dire que derrière leur oreille, leur endoctrinement, c'est celui-là. C'est détruire le peuple juif. Ça va ? Même si vous n'en entendez pas parler, eux, ils sont enseignés dans cette voie parce que c'est leur écrit. Vous me direz, mais c'est une religion de la paix, etc., etc. Je vous laisse ça, n'est-ce pas, à vos propres considérations. Dans son discours à l'ONU, en tout cas à l'ONU, Ahmadinejad a conclu son exposé par une prière sur la venue du Mahdi. Vous saviez qu'il a prié à l'ONU ? Vous avez souvent entendu parler des présidents qui se présentent sur l'estrade à l'ONU et qui prient devant l'humanité tout entière. Ahmadinejad, islamique, eh bien lui, il a prié la venue du Mahdi. Et le Mahdi, c'est le Messie de l'islam. « Ô Seigneur Tout-Puissant, il a dit, je te prie de hâter la venue du dernier dépositaire de tes secrets, le promis, cet être humain parfait et pur qui remplira ce monde de justice et de paix. » Alors pour eux, ça veut dire que tout le monde sera devenu musulman. Pardonnez-moi de terminer avec cette note, mais vous vivez dans ce monde. Et selon les prophéties, nous avons vu hier soir, et j'ai tenu à le rappeler ce matin, bien des prophéties nous ramènent dans ce pays du Moyen-Orient. Ouais. Un écrit sur un site arabe dit de nombreux hadiths. Les hadiths, c'est un autre écrit à part le Coran, mais qui est aussi important. Les hadiths du prophète, cités dans des recueils faisant autorité, nous présentent cette grande figure spirituelle attendue à la fin des temps qu'est le Mahdi. Même s'il est difficile de définir avec précision sa mission et son rôle spirituel, les hadiths nous permettent de comprendre qu'il sera à la fois un chef temporel de la communauté musulmane et un guide spirituel chargé d'éclairer les croyants à une époque où les ténèbres, la confusion et l'injustice domineront. Il aura à lutter. Il aura, le Mahdi des musulmans, doit lutter contre l'Antéchrist, qui s'appelle en arabe el-Dajjal. Et que fait, d'après eux, celui qu'ils appellent El Dajjal? Eh bien, il vient, lui, pour défendre Israël. C'est étonnant. Eux, ils veulent instaurer une religion sur le monde entier, le fameux califat. Vous savez, c'est ça, c'est la communauté qui va dominer le monde entier. En même temps que va venir El Mahdi, qui est le souverain, donc Messie, chez les musulmans. J'ai une minute, hein, je termine là. Il va être accompagné, vous êtes bien assis, il va être accompagné par Jésus. Vous savez ça? Mais je vous précise tout de suite, ce n'est pas notre Jésus. Ce sera un autre Jésus, mais il l'appelle Jésus, hein? Jésus. Mais le Jésus musulman sera soumis à El Mahdi. Et son but, le but de ce Jésus, c'est d'instaurer justement au nom du Mahdi l'islam sur la terre entière. Il va même détruire les croix, c'est pour ça qu'on est en train de détruire les croix hein, en Syrie, en Irak, parce que c'est écrit cela, il va détruire les croix pour dire aux gens, c'est pas vrai, Jésus n'est pas mort sur la croix. Et ça c'est écrit dans le Coran. Jésus n'est pas mort sur la croix, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa place, n'est-ce pas? Dieu a enlevé Jésus au ciel. Alors c'est étonnant parce qu'il croit au retour de Jésus, mais pas au retour de Mohammed. Et les deux, El Mahdi et ce Jésus musulman, vont combattre contre celui qu'ils appellent El Dajjal, qui lui vient pour libérer Israël. Or, moi j'ai lu dans l'Apocalypse qu'il y en a deux qui vont faire régner la terreur sur la terre. Hein, c'est la fameuse bête à 10 cornes et à 7 têtes. Et puis un autre qui va venir le seconder et soutenir, n'est-ce pas, son ministère, et qui s'appelle le faux prophète. Ça va? Et ils vont tous les deux ensuite se liguer contre Jésus qui revient au chapitre 19 de l'Apocalypse à Armageddon. Alors j'ai l'impression qu'ils ont inversé un petit peu les rôles là. Hein, oui, nous attendons Jésus qui va revenir. Mais c'était bon quand même de vous dire tout cela parce que c'est intéressant de voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous vivons. Je rappelle que les musulmans sont plus d'un milliard actuellement sur la planète. Et ça fait du poids. Vous en touchez un, vous touchez toute la maison. Voilà, mes frères et sœurs. Maintenant, Jésus va revenir. Il va enlever les croyants. Je suppose que la majorité d'entre vous, vous êtes de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que quand Jésus va revenir, c'est un petit peu comme un aimant quand il va attirer le fer, vous savez. Jésus va prendre, qui il va prendre? Il va prendre tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés de Dieu, les vrais chrétiens. Pas les soi-disant chrétiens. Non, il va prendre le croyant, celui qui lui appartient, qui fait partie du corps de Christ. Gloire à Dieu. Alors, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Je te le dis ça comme ça, là, doucement, hein, que les autres n'entendent pas. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que tu es content de venir aux réunions? C'est une belle ambiance, on chante bien, les gens sont très gentils. Est-ce que c'est ça seulement? Ou est-ce que vraiment, de tout ton cœur, tu veux abandonner ta vie d'insoumission, ta vie de méchanceté, de péché, de souillure, et donner ta vie enfin à Christ? Et lui appartenir, et dire maintenant, Jésus, tu peux revenir, je fais partie de ceux qui vont partir avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père céleste, je veux te dire merci. Ta grâce a abondé dans notre existence, et je veux te prier pour qu'elle abonde pour tous ces bien-aimés qui sont là aujourd'hui, de les aider, parce que nous sommes conscients que la vie n'est pas simple, n'est pas facile. Seigneur, soutiens mes frères et sœurs. Soutiens-les, affermis-les, encourage-les, je te prie, au nom de Jésus, et que vraiment nos cœurs soient prêts, parce que si Jésus revient aujourd'hui, nous voulons être de ceux qui sont là, debout devant toi, mon Sauveur. Oui, nous disons comme dans l'Apocalypse, oui, viens bientôt, Seigneur Jésus, viens rapidement, amen, et que nous partions avec toi dans la maison du Père, où tu nous as préparé une place. Oh, bénis cette église, je te prie, bénis-la richement, au nom de Jésus, amen.